Bonjour à tous, c'est Fatine, architecte et podcasteuse. Je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général. Bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles hauteurs. Sur Pep Talk with Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer à condenser de leurs propres méthodes, sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Et pour soutenir le podcast, merci aussi de partager autour de vous et laisser des étoiles ou commentaires sur votre app. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lina Bensilid, coach spécialisée dans la confiance en soi et la gestion des émotions. Si vous avez déjà dit oui à une invitation ennuyeuse et vous avez regretté juste après, ben préparez-vous à déployer votre cape de super affirmation de soi parce qu'on va apprendre à comment dire non sans culpabilité. On va parler d'authenticité, vous savez ce truc plus rare que trouver une chaussette perdue, ben Lina va partager avec nous des tactiques pour avoir confiance et pour apprendre à briller en étant soi-même et aligné avec nos valeurs. Cet épisode promet d'inspirer ceux et celles qui cherchent à renforcer leur confiance et à s'affirmer au quotidien. Alors c'est parti, place à l'épisode. Bonjour Lina.
Bonjour Fatine.
Alors dis-moi, qui est Lina et qu'est-ce qui t'a menée au coaching ?
Ok, donc je m'appelle Lina, comme tu as bien pu le dire. Je suis coach en confiance en soi et en gestion des émotions. Je suis aussi maman de deux petits garçons de 3 ans et 5 ans. Et je suis depuis toujours fascinée, mais vraiment fascinée par l'humain, ce qui m'a d'ailleurs menée justement à faire du coaching. Et pour me retrouver à faire du coaching, ça a été vraiment un long chemin. Pour te faire un petit résumé, j'ai coché les cases en fait que la société attendait de moi. Mm-hmm. Donc j'ai fait mes études, je me suis mariée, j'ai eu mon premier job avant en agence de communication. J'ai eu mes enfants et finalement la société nous fait croire qu'une fois qu'on aura coché toutes les cases, on se sentirait complet, heureux, etc. Et j'ai réalisé en fait que pas du tout. Et je l'ai réalisé, je pense, assez tôt parce que j'ai commencé un travail sur moi avant d'avoir coché toutes les cases. Et donc, comme je le disais, j'ai travaillé pendant 10 ans en communication et relations publiques, en agence, en entreprise, etc. J'aimais ce que je faisais, mais je trouvais que ça n'avait pas assez de sens. Et moi, j'avais un besoin vraiment fondamental d'avoir du sens dans ce que je faisais dans ma vie. Vraiment, c'est une quête que j'avais qui était énorme et qui était de plus en plus grande avec le temps et qui s'est vraiment énormément agrandie avec l'arrivée des enfants. Tu me diras si toi, tu as ressenti on se dit, je me suis pour te dire imaginée sur mon lit de mort en me disant en fait si je continue à avancer comme ça, en fait je vais passer à côté de ma vie. Donc en faisant de la communication, je savais qu'il y avait pas de sens, mais moi j'ai toujours su que c'était l'humain qui m'intéressait, mais ça reste vaste. J'avais été acceptée en psychologie en commençant mes études à Montréal parce que je vis à Montréal, mais je pense qu'en étant jeune, c'est peut-être un choix de facilité que j'ai fait que de choisir communication, parce qu'à Montréal, faire des études de psychologie, c'est environ 9 ans d'études, c'est un doctorat, etc. Donc j'ai peut-être raté un petit peu ma chance entre guillemets, mais qui m'a amenée à autre chose. Donc durant mon parcours, j'ai fait un travail sur moi, j'ai vu une psy, etc. Ça m'a énormément aidée. Et à un moment donné, je suis passée par une phase difficile à l'arrivée de mon premier bébé. Et j'avais l'impression que le travail que j'avais fait avec ma psychologue ne m'aidait plus au moment T. J'avais besoin en fait de solutions concrètes ici et maintenant. C'est là où j'ai découvert le coaching que je jugeais énormément, parce qu'on voit énormément de coachs partout. Souvent, c'est pas un métier encadré. Donc, on peut être coach sans formation, avec peu de formation, etc. Donc, beaucoup de préjugés. Mais la coach que j'ai découverte a tellement eu un impact incroyable sur moi. Les outils que j'ai eus ont tellement changé ma vie qu'en fait, toutes les parties du puzzle se sont mises ensemble et j'ai compris que c'était vraiment ça ce que je voulais faire. Et à l'arrivée de mon deuxième bébé, en fait, j'ai laissé tomber mon travail stable en communication. Tout le monde me disait que j'étais complètement folle. J'ai pris toutes mes économies que j'avais gardées pour ma retraite et je les ai investies dans les meilleures formations. Donc, j'ai pris un risque. Mais pour moi, c'était vital, c'était fondamental. Et c'est comme ça que je suis en fait dans le coaching depuis 3 ans maintenant. Voilà, et que ma vie a pris vraiment tout son sens au quotidien.
Mais souvent, quand on fait quelque chose qu'on aime, on a ce sentiment de complétude, je pense.
Ouais, vraiment.
Je pense qu'il n'y a pas mieux. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'un enfant, ça chamboule tout.
Ouais.
Et c'est vrai, tu as raison, je le vis aussi en ce moment, donc c'est très très dur. Et on se demande qui suis-je et comment ma vie a changé du jour au lendemain. Donc c'est très très bien que les gens se rendent compte que c'est possible d'être dans cette situation et de pouvoir en sortir et de faire tout ce qui est en pouvoir pour sortir de cette situation.
Ouais.
Tu parles souvent d'authenticité et ça rejoint aussi ce que tu as dit, qui est que tu ne savais plus un petit peu, ça ne te ressemblait pas, c'est cocher des cases.
Ben oui.
Voilà. Donc, c'est quoi pour toi quelqu'un d'authentique?
Quelqu'un d'authentique. Pour moi, une personne authentique, c'est une personne qui est en accord avec qui elle est vraiment. Donc, c'est une personne qui va dire ce qu'elle pense, qui va être en cohérence avec qui elle est, ou en tout cas en chemin pour l'être, parce que c'est, je pense que c'est très compliqué, voire quasi impossible d'être authentique à 100% tout le temps. Pour faire un parallèle, en fait, on est notre cerveau n'a pas changé ou quasiment peu changé depuis 300 000 ans. Donc le monde dans lequel on a évolué a changé. Mais notre cerveau, concrètement, on a quasiment le même cerveau qu'un homme préhistorique. Et à la préhistoire, être rejeté par le groupe, ça signifiait une mort assurée. On pouvait pas survivre seul. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde moderne, mais on a ces réflexes, dès qu'on se sent rejeté, pas approuvé, etc., on a ce réflexe, c'est comme si on était en danger de mort. Et donc, on essaye de rentrer dans le moule, donc c'est quelque chose de complètement normal.
Pour survivre.
Donc c'est important d'en prendre conscience pour se réadapter et dire en fait à notre cerveau, parce que notre cerveau c'est une machine incroyable qui est plastique, qu'on peut reprogrammer à notre service, lui dire en fait t'es plus en danger de mort, tout va bien, je suis là avec toi, si t'es rejeté tu vas pas mourir. Pour te dire ce que c'est que l'authenticité, c'est important,
d'être authentique,
complètement,
finalement.
Complètement. Et ça vient aussi de notre enfance, parce que quand on est enfant, on est là. Tu viens d'avoir une petite fille qui est dans son authenticité la plus pure. Tu vois là, tu me parles d'authenticité. Ben Lily, ce petit bébé de 2 mois, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Mais en grandissant, en fait, la société dans laquelle on vit nous pousse à mettre des masques. Donc on met des masques petit à petit. Pourquoi? Pour être aimé. Déjà par nos parents. Ouais. Déjà par nos parents, en fait. On veut que nos parents soient heureux, donc on va avoir de bonnes notes. On veut pas faire de bêtises pour ne pas les rendre malheureux. Et on met des masques petit à petit. On s'éloigne de notre authenticité, finalement. C'est comme ça qu'on prend de la distance jusqu'au jour où, un peu plus adulte, on réalise qu'il y a un désalignement total. Mmh. Et quand je te disais qu'on peut pas être authentique tout le temps à 100%, même pour les personnes qui ont fait un travail sur elles, c'est parce que on a des traumas qui se réactivent devant certaines personnes. Je vais te donner un exemple. J'ai fait un travail de 10 ans sur moi. On peut dire que je suis pas mal avancée, mais c'est le travail d'une vie. Mais parfois, devant certaines personnes, certaines situations, t'as des choses qui ressortent et qui font que tu vas mettre un petit masque sans t'en rendre compte. Et le but, c'est de peut-être le réaliser après coup ou sur le coup pour te réajuster, te réadapter et continuer à avancer.
Oui, c'est ça. Et je pense que justement, c'est à cause de ce que la société nous pousse à être et à devenir. Mmh. Et surtout, on veut tous ressembler à cet idéal de personne qui a réussi, qui a un bon job, qui est mariée, il faut avoir des enfants à tel âge, dépasser un certain âge, je suis trop vieille. Donc, et ça nous pousse à... On peut peut-être nous poser une question, on n'ose pas répondre parce qu'on ne s'affirme pas encore, on n'ose pas dire qu'on n'est pas rentré dans ce moule. Pourquoi tu penses que ça a autant d'impact sur nous, ce genre de choses?
En fait, ça vient d'une seule chose, notre besoin d'être aimé, d'être validé. Et ça me ramène à notre cerveau, justement, reptilien, qui est en mode... qui a peur, en fait, qui voit ça comme un danger de mort, le fait d'être rejeté. Et je pense qu'on a... Tu vois, tu es maman, je suis maman aussi, on a une responsabilité aussi, avec nos enfants, d'essayer de changer les choses. Oui. De leur dire, en fait, qu'on les aime d'un amour inconditionnel, quoi qu'ils fassent. C'est ça. Parce qu'en fait, en étant petit, on... Les parents, je pense que ça part d'une bonne intention et je suis sûre qu'on fait nous aussi des erreurs de temps en temps, dire maman n'est pas contente parce que t'as une mauvaise note, maman est triste parce que t'as fait une bêtise. Donc le message qu'on renvoie, c'est que l'enfant n'est pas assez et que notre comportement a un impact sur les émotions des autres, alors qu'en réalité, on est les seuls responsables de nos émotions. Donc c'est vraiment un besoin fondamental d'être aimé. Et Fatine, c'est important aussi que je te dise que Ça nous a protégés aussi quand même, tu vois. Je parle souvent du syndrome de la bonne élève. C'est vouloir justement rentrer dans les cases, être bien intégré dans la société, bien faire les choses, etc. Et ça nous protège en étant enfant, parce qu'on a un besoin viscéral d'amour et c'est comme ça qu'on a la reconnaissance de nos parents, de nos professeurs et tout. Donc c'est un besoin qui est là, qui est vital. Quand on commence nos études, être une bonne élève qui rentre dans les cases, c'est bien, on a de bonnes notes, on avance. Mais quand on commence notre carrière, etc., là, ça nous porte préjudice parce que pour réussir, faut pas être la petite fille parfaite. Il faut oser prendre des risques, faut oser faire des erreurs et c'est comme ça qu'on avance, qu'on sort de notre zone de confort et qu'on grandit. Donc,
Et justement, pour réussir à faire ça, il faut avoir confiance en soi.
alors il y a deux choses. C'est important ce que tu dis parce qu'il y a deux choses. Il y a la confiance en soi et l'estime de soi. Pour moi, c'est deux choses différentes, mais tu vas avoir autant de définitions que de personnes. La confiance en soi, pour moi, elle naît dans l'action. À chaque fois que tu vas agir malgré la peur, tu vas agrandir ta confiance. Et plus tu fais quelque chose, je vais donner un exemple que j'aime donner, que ma sœur qui est à côté trouve un peu nul, mais je vais le donner quand même. Mais tu reçois quelqu'un à dîner chez toi, si tu fais un plat que tu fais depuis toujours, tu as agi plein de fois, tu le maîtrises, tu vas avoir confiance en toi. Alors que si tu tentes une nouvelle recette, tu vas pas avoir confiance en toi. Donc plus tu agis en faisant quelque chose, plus tu viens muscler ta confiance. Et tu peux pas avoir confiance en toi dans toutes les sphères de ta vie, c'est impossible. Donc l'idée pour avoir plus confiance, c'est d'agir un maximum malgré la peur. C'est comme ça qu'on sort de notre zone de confort, qu'on l'agrandit et qu'on fait plein de grandes choses. Et l'estime, ça rejoint beaucoup l'authenticité. Parce que l'estime, si tu veux, c'est la valeur que tu penses valoir. Donc, Lina pense qu'elle vaut assez ou pas assez. Et tu viens la muscler à chaque fois que tu es fidèle à toi, à chaque fois que tu dis ce que tu penses, que tu agis en étant en cohérence avec qui tu es.
Donc en fait, plus on a d'estime pour nous-mêmes et plus on a confiance en nous.
En fait, les deux sont liés en même temps pas liés. C'est comme si tu regardais, par exemple, si tu fais du sport, tu fais du cardio. C'est pas vraiment lié à la musculation. Tu peux être très bon en cardio, être mauvais en muscu. Tu peux être très bon en muscu, être en mauvais en cardio. Mais quand t'as les deux, ben, c'est fantastique parce que ça te permet de faire de grandes choses.
C'est vrai que quand on a, c'est-à-dire que quand on apprend à ne plus autant se critiquer soi-même, et donc on apprend quelque part à s'aimer un peu plus tous les jours. En anglais, we give ourselves some slack. Et du coup, face aux autres, quand on veut s'imposer, ça nous donne un petit peu, ça retord un peu le blouson. On a envie de s'affirmer quand même parce qu'on sait qu'on le mérite et ce genre de choses. Est-ce que du coup, c'est le fait de devoir comme ça dire non, exprimer son émotion face à une situation qui ne nous plaît pas, par exemple, quels outils on peut mettre en place pour s'affirmer face à quelqu'un, par exemple?
Donc déjà, c'est hyper important et ce qu'il faut prendre conscience, c'est que vous ne le faites pas contre la personne qui est en face de vous. Parce que votre cerveau reptilien, il vous fait croire que c'est contre la
C'est ça.
personne. Mais en fait, vous le faites pour vous. Pour vous honorer et par amour pour vous.
C'est ça.
Donc c'est sûr que c'est inconfortable quand on n'a pas l'habitude de le faire. Mais il faut se dire que cet inconfort, c'est juste une émotion. Et une émotion, c'est quoi? C'est une vibration dans le corps qui finit par passer. Donc à chaque fois, se dire, comment je peux m'honorer dans cette situation? Et c'est comme ça qu'on vient vraiment muscler son estime. Et pour répondre à ta question des outils pour le faire, j'en ai plusieurs que je peux donner. Pour les personnes, par exemple, qui ont de la difficulté à dire ce qu'elles pensent, en fait, il y a la méthode des 5 secondes de Mel Robbins. C'est-à-dire que tu es devant une personne, tu veux dire quelque chose, tu t'empêches de le dire. Avant de compter jusqu'à 5, tu dis le truc. En fait, c'est que ça coupe court à ton cerveau qui va trouver toutes les raisons de pas le dire, toutes les
C'est
peurs.
ça.
Donc, faut le faire, ta peur, c'est fait. Et une fois que c'est fait, tu te dis, en fait, je suis pas mort. Et encore une fois, tu sors de ta zone de confort et t'es fière de toi et ça devient beaucoup plus facile après. Ensuite, il y a
Tu
aussi,
t'entraînes en fait, à
c'est
force de
ça.
le faire, comme tu as dit tout à l'heure, tu le fais, tu le refais, puis ça devient quelque chose de normal, et donc au
C'est
fur et à
ça.
mesure, tu n'as plus de.
Et c'est ça. Et Fatine, c'est important de prendre conscience, je le disais un peu plus tôt, que notre cerveau est plastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, en prenant des actions concrètes comme ça, créer de nouveaux circuits neuronaux à notre service. Donc plus on le fait, plus ça devient facile, plus on a des réflexes qui sont à notre service. Parce que notre cerveau peut être à la fois notre plus grand ennemi quand on le laisse avec ses mécanismes d'homme préhistorique, Mais quand on sait le diriger, qu'on a les outils qu'il faut, ça peut devenir notre meilleur ami. Il faut le muscler. C'est exactement ça. Ouais.
Il y a quelque chose qui revient assez souvent, c'est que, par exemple, quand on choisit sa tenue de la journée ou que, je sais pas, moi, on va à l'encontre, on est en groupe, par exemple, lors d'une soirée ou d'une après-midi en famille ou avec des amis, et que les enfants sont autour de nous. Ils sont très observateurs, ils arrivent à voir un petit peu comment papa et maman se comportent, comment maman a répondu à telle personne, est-ce qu'elle s'est imposée à ce moment-là ou non. Donc, il y a cet effet de miroir et on sait tous que les enfants, il y a un peu de mimétique, quoi. Ils reprennent tout ce que les parents font et ils grandissent avec ça. Donc, il y a ça qui est important, j'imagine, parce qu'ils vont le reproduire aussi quand ils vont grandir. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans la relation du parent avec l'enfant qu'on peut mettre en place pour que l'enfant soit un enfant qui a confiance en lui, qui sait s'exprimer, dire non quand il faut dire non, et faire ce qu'il a envie de faire sans se soucier de ce que X va penser plus tard.
Ouais.
Est-ce que, par exemple, des choses aussi petites que je te laisse choisir ta tenue aujourd'hui, je ne vais pas t'imposer la tenue de la journée, est-ce que des choses comme ne pas trop les juger, ne pas trop les critiquer, est-ce que ça joue à ton avis dans cette confiance en soi?
Je pense que tu as donné pas mal de réponses dans ta question. Ce qui est important, c'est que les parents essayent souvent de trouver des solutions à l'extérieur d'eux, alors qu'on a toutes les réponses en nous. En fait, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants pour qu'ils aient confiance, pour qu'ils osent dire non, c'est incarner nous-mêmes tout ça. Il y a rien de plus puissant, parce que tu as beau répéter tout ce que tu veux à ton enfant, si toi tu l'incarnes pas, comme tu le dis, on est un peu des miroirs pour nos enfants, ça sert absolument à rien. Donc je pense que l'étape numéro un, c'est de faire un travail sur soi et d'incarner nous-mêmes ce qu'on veut prôner comme valeur, comme manière d'être à nos enfants.
D'accord, donc dans la pratique, si quelqu'un a envie de gagner confiance, et d'apprendre à s'affirmer, je m'impose, et grâce à ça, je deviens de plus en plus moi-même. Je ne suis plus en train de mettre des masques pour faire plaisir à un tel ou un tel. Je devrais donc utiliser, par exemple, la technique de Mel Robbins, qui est de compter jusqu'à 5, et dire ce que je dois dire.
Ouais.
Et est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut utiliser pour, au jour le jour
Par rapport au fait d'avoir du mal à dire non, parce que ça rejoint encore cette idée de vouloir plaire aux autres, on dit pas non parce que
pour faire plaisir. Ça me rappelle l'histoire du yaourt des enfants,
incroyable. Tu veux en parler de l'histoire du yaourt?
On peut en parler, bien sûr.
Je te laisse en parler.
C'est une expérimentation entre des garçons, des petits garçons et des filles. Et de ce que je me souviens, donc les petits garçons de 5 ans, on leur donne un yaourt salé, donc qui est infect, dégueulasse.
Ouais, c'est bon, ça me revient.
Et ils doivent le manger, et les filles pareil. Et quand on demande aux garçons comment tu trouves le yaourt, tous ils disent beurk, dégueulasse, c'est dégueu et tout. Et les filles, toutes, pour la plupart, répondent c'est bon. Ouais. Enfin, pourquoi? Parce qu'elles veulent faire plaisir à la personne qui est en face. Voilà, donc, comme on a dit, toujours le masque.
Complètement, extrêmement féminin. Merci. J'avais le truc, mais j'avais pas l'exemple concret, donc merci. Tu nous sauves.
Bon,
mais oui, c'est beaucoup plus féminin parce que le syndrome de la bonne élève.
Ouais.
Beaucoup plus féminin que masculin parce que on doit être des petites filles gentilles, modèles, qui font pas trop de vagues, etc. Alors qu'on autorise beaucoup plus aux garçons de tester, de tomber, d'avancer, etc. Donc c'est un syndrome qui est beaucoup plus féminin. Et pour revenir à ta question, pour oser dire non, voilà, on a peur de déplaire et souvent dire oui aux autres, c'est se dire non à soi. Donc c'est ce qu'il faut prendre conscience. J'ai différentes méthodes, mais pour les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal à dire non, quand on vous demande quelque chose, de dire automatiquement, je vais attendre, je vais vérifier quelque chose et je reviendrai vers toi après pour te répondre. Ça te permet d'avoir un petit sas de réflexion pour te dire, est-ce que vraiment j'ai envie de dire non?
Mon père dit souvent ça, de décompression.
C'est vrai.
On va décompresser.
Et reviens. Mais c'est ça, ça, vraiment, c'est le dire automatiquement, automatisme. Je dois vérifier un truc, je reviens vers toi. Deuxième méthode, c'est dire non à quelque chose et dire oui à autre chose. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, tu es architecte aussi, tu as un client qui te demande quelque chose, de dire, écoute, non, je peux pas t'aider là maintenant sur ça. Mais je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, je vais te mettre en contact. Donc c'est non à quelque chose, oui à autre chose. Ou non, je peux pas t'aider maintenant, mais le mois prochain, j'aurai probablement plus de disponibilité, je te ferai signe. Et troisième méthode, dire non tout court. Mais ça, on sait que c'est compliqué.
Je pense justement que ça peut se faire comme ça, graduellement.
Ouais, c'est ça.
On se retire, ouais. Après on dit oui, non, puis oui. Et puis un jour, voilà, on dit non, j'ai pas envie.
Ouais. Et puis, je suis sûre que tu dois le remarquer, les personnes qui ont du mal à dire non, on va... De manière naturelle, c'est humain, plus négocier avec cette personne. Mm-hmm. Par exemple, tu as du mal à dire non, je suis une copine à toi, je vais t'inviter à dîner au resto, tu vas me dire non, je suis fatiguée. Je vais avoir tendance à peut-être insister un peu plus parce que je sais qu'avec Fatine, elle va finir par flancher. Mm-hmm. Alors quand on a une personne qui n'a pas de mal à dire non, qui le dit, qui est ancrée, on négocie généralement pas beaucoup aussi. On projette l'énergie à laquelle on vibre beaucoup.
Et plus on fait ça, plus on devient en alignement avec nous-mêmes. Parce que ça nous arrive souvent, par exemple, de, justement, tu as l'exemple d'une copine qui nous invite à aller prendre un café ou quelque chose. On n'a pas envie, on est fatigué, on a envie de faire autre chose.
Ouais.
Mais bon, on n'a pas envie de dire non. Donc, allez, viens, on y va. Tu pars prendre un café, tu rentres, you're drained, tu es complètement KO. T'as pas l'énergie, tu dis, mais franchement, j'aurais pu dire non. Donc, même psychologiquement, ça rajoute un poids à encore, j'ai pas dit non, tu vois, je suis pas capable d'imposer mes choix.
Complètement. Donc, c'est une culpabilité qui
prend. Et du coup, on repère confiance en soi. Ouais. Je pense que c'est un cercle vicieux. Alors, ne pas s'imposer fait qu'on perd confiance en nous.
Ouais. Donc, se dire, je le fais pour m'honorer, par amour pour moi.
Exactement. Il faut se lever le matin et dire, moi, je m'aime et aujourd'hui, toutes les décisions que je vais prendre, elles seront pour moi.
Pour moi, en fait, comment je peux m'honorer une action à la fois? Ça peut même être, quand tu vas choisir le plat que tu vas manger, comment je peux m'honorer tout de suite? Tout de suite, tu vas choisir le bon plat pour toi. Parfois, ça va être la salade healthy. Parfois, peut-être que tu as envie d'une pizza. Mais comment je peux m'honorer une action à la fois? Super, super important.
Super. Et je trouve que c'est un sujet très, très important, surtout ici au Maroc, où on a ces injonctions qui sont interminables. Encore à l'étranger, je trouve quand même, ayant vécu là-bas, tu vois les gens sortent dans la rue, habillés comme ils veulent. Si tu veux mettre une plume dans tes jeux, tu la mets, il n'y a personne qui te dérange, personne ne te regarde et tout. Ici, on se sent vraiment observé, regardé, jugé, critiqué, même surtout par les plus proches.
Ouais.
Et c'est très très dur de sortir de ce moule et de dire, écoutez les gars, moi je suis différent, je suis comme ça, ou j'ai envie de faire les choses comme ça, sans se dire, mais on va me regarder d'un regard, comment je fais pour m'imposer. Donc c'est très bien d'avoir un peu ces outils pour pouvoir sortir de là et se sentir mieux, et d'une certaine manière pour les parents, que leurs enfants aussi puissent suivre un peu ce moule.
Ouais, et c'est très c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'au Maroc c'est particulier, dans une société où il y a beaucoup beaucoup de jugements. Et je pense que le fait que je sois partie quelques années aussi à Montréal, ça a été plus facile pour moi. Tu vois, quand tu t'extrais de ton milieu, de pouvoir, tu vois, te réinventer, te dire en fait finalement qui suis-je, qu'est-ce que je veux, etc. Plutôt qu'être à l'intérieur. Mais c'est un travail que je fais avec beaucoup de clientes qui sont dedans. C'est tout à fait possible, etc. Faut prendre conscience aussi de deux choses par rapport au jugement, justement, qui peut peut-être aider les personnes qui nous écoutent. C'est que le jugement des personnes qu'on a en face de nous, souvent on le ramène à nous, on va le prendre personnellement, mais ça dit tout de la personne qui est en face de nous. Ça dit absolument rien de nous. Donc c'est important de le dire. Et vraiment.
S'en souvenir. Ouais.
Ouais. Et prendre conscience aussi que
Faut éduquer en fait les autres quelque part.
En fait, on ne peut pas éduquer les autres, Fatine. Ça, c'est vraiment...
Si on s'attend à ce qu'ils répondent toujours comme on veut et que si on peut leur expliquer que, voilà, surtout qu'il y a quelqu'un de proche, par exemple, qu'on peut prendre à part et dire, voilà, moi, c'est comme ça que je veux faire, je sais que ça te fait bizarre, mais c'est ma méthode. On a le goût peut-être répéter, dire les choses. Ouais. Il ne faut pas baser notre bonheur sur la réaction de quelqu'un.
En fait, il faut mettre le focus sur ce qui est en notre contrôle. Ce qui est en ton contrôle dans cette situation, c'est de dire les choses. La réaction de l'autre, tu peux rien faire. Ça dit absolument tout d'elle, rien de toi. Et en plus, quoi que tu fasses, t'es même pas sûr d'obtenir ce que tu veux que la personne pense. Moi, j'ai un exemple qui m'avait vraiment frappée. Donc, j'habite à Montréal. Il y a quelques années, je suis rentrée ici pour le mariage d'une copine qui a ramené une amie canadienne avec elle. Et je voulais bien faire. Donc, j'ai proposé à cette amie canadienne de mon amie de venir manger le couscous le lendemain. T'es là avec ses parents, je lui dis, je vais te faire visiter la ville, etc. Donc, pour moi, je faisais plaisir, elle allait être heureuse, etc. Et cette personne allait dire, Lina a été étouffante, elle nous a proposé énormément de choses. Tout ça pour te dire, ça illustre bien le fait que, quoi qu'on fasse, on peut pas...
On sera toujours critiqué.
Oui, et que ce que pensent les gens dit tout de elle, en fait, c'est pas quelque chose de mauvais ce qu'elle a pensé, mais c'est ses filtres de pensée de Canadienne. Elle a besoin d'avoir sa petite bulle, de la distance, alors que moi, ça dit tout de la Marocaine, qui est chaleureuse, etc. Donc voilà.
Effectivement, c'est vrai qu'on peut pas, ça c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler.
C'est ça.
Ce qu'on peut contrôler, c'est ce que nous, on pense de nous.
Exactement.
Comment nous, on va agir. Est-ce qu'on va pouvoir répondre comme on veut?
C'est exactement ça et c'est très important. Dans les situations où on souffre souvent, c'est parce qu'on essaie de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler.
Il faut se détacher en fait de la réaction de l'autre,
c'est ça.
Ça reste loin de nous.
Et de se dire en fait là je suis dans une situation compliquée, je suis en train de souffrir, c'est sûr que je suis en train de contrôler ce que je ne peux pas contrôler, ce que les gens pensent, ce que les gens font, la réaction des autres. Se poser juste cette question quand on est face à une situation compliquée, qu'est-ce qui est en mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ce qui ne l'est pas, je lâche prise. Ce qui est en mon contrôle, je lâche mets un max d'action. C'est ça.
Plus je fais ça, et plus ma jauge de bonheur et de...
Et d'estime et de confiance et d'alignement augmente.
C'est ça.
Parce que t'es aligné avec ce que tu veux. Tu mets ton énergie au bon endroit. Parce que c'est complètement contre-productif de mettre l'énergie dans quelque chose qu'on peut pas contrôler. Essayer d'éduquer les gens, ça c'est quelque chose de très courant ici. Tout le monde veut essayer d'éduquer tout le monde.
Mmh.
Et à ça, ce que je réponds, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Et j'adore cette phrase de Gandhi qui te dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde. » Au lieu d'essayer de faire en sorte que les gens soient ponctuels, qu'ils soient ceci, cela, sois toi un exemple. Et c'est sûr que ça va avoir un impact. Et les gens observent. On a l'impression, on se dit « Oui, non, si j'agis. » Mais si chacun agit en essayant d'être l'exemple qu'il veut voir, le monde irait beaucoup mieux.
C'est sûr.
Ouais.
Donc finalement, ça commence par savoir qu'est-ce que nous, on veut devenir qui. Parce qu'à force de mettre des masques, je pense qu'on se perd un peu en chemin et on ne sait plus vraiment qui on est. Est-ce que vraiment j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ceci? Et donc, il faudrait faire une petite rétrospective et voir et se poser des questions, se dire, bon, réellement, qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce qui m'intéresse?
Et c'est pas facile, Fatine.
Et ça, c'est un processus qui est difficile, je pense.
Et c'est à la fois le plus beau cadeau qu'on puisse avoir, tu vois, quand on se sent désaligné. Parce que voilà, ça veut dire qu'on doit faire un travail, se réajuster et que la suite va être beaucoup plus alignée pour nous. Mais en même temps, c'est très douloureux. Les personnes que j'accompagne sont beaucoup à être dans cette situation-là, à se dire, en fait, j'ai mis des masques, mais qui je suis? Et ces personnes-là ont un besoin urgent d'avoir une réponse rapidement. Mais ça prend des années. Moi, rien que pour moi, mais bien sûr. Et se dire, en fait, que c'est un chemin. Faut pas avoir peur, ça prend du temps. Et il faut juste essayer d'avancer petit à petit, un petit pas à la fois, en se rapprochant de qui on veut être. Et finalement, quand j'ai parlé de mon histoire personnelle, moi, ça m'a pris 10 ans pour savoir ce que je voulais faire, tu vois. Et c'était vertigineux, c'était compliqué. Moi aussi, au début, j'ai lancé un podcast comme toi pendant que je travaillais, qui me permettait d'interviewer des femmes inspirantes, ça me permettait de me nourrir, de me rapprocher du côté humain. Et je savais pas que j'allais devenir coach. Et c'était douloureux. Je suis allée voir une conseillère d'orientation. C'est une phase vraiment très compliquée. Mais finalement, quand on se met en action, petit à petit, pour se rapprocher de qui on veut, la vie nous ramène des choses. Et c'est là où, voilà, toutes les parties de mon puzzle se sont mises ensemble à un moment donné.
Je trouve vraiment que... pour ne pas dire toutes, mais je pense toutes les personnes qui ont un amour profond pour le développement personnel, et j'en fais partie, ont vécu ou ont eu un parcours qui fait qu'elles se sont posées beaucoup de questions et elles ont elles-mêmes dû vivre des choses qui font qu'elles ont dû se rapprocher du développement personnel et se renseigner là-dedans et vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et ça nous pousse chacun à prendre une voie un peu dans ce sens et chacun à sa manière. Comment tu penses que le coaching peut aider quelqu'un à devenir la meilleure version de lui-même?
Et c'est assez extraordinaire aussi ce que tu dis avant de répondre à ta question. C'est que... on se dit, j'ai beaucoup de clientes qui me disent, mais j'en ai marre, pourquoi moi je me pose des questions? J'aimerais être comme les autres qui sont, voilà, qui avancent tranquillement. Il y en a qui avancent tranquillement, tu vois, mais je leur dis, est-ce que vraiment, il y a des personnes qui se posent tout le monde se pose beaucoup de questions, enfin, se pose des questions, mais il y en a qui s'en posent beaucoup plus, pour justement faire ce travail sur lui, comme ce que tu as fait toi, comme ce que j'ai fait moi. Mais il y en a d'autres qui avancent, qui cochent les cases, qui se posent pas trop de questions, et ils me disent, mes clientes me disent, mais j'aimerais ressembler à ces personnes. Je leur dis, mais en fait, vous voulez pas. Parce que ces personnes, peut-être qu'elles vont se réveiller à 60, 70 ans, 80 ans, en se disant, je suis passée à côté de ma vie. Donc la douleur que tu ressens là maintenant à te chercher, à avoir des questions, à vouloir trouver des réponses, va te permettre de te réaligner. C'est douloureux, mais c'est là où tu as plein de portes qui vont s'ouvrir, où tu vas te reconnecter à qui tu es vraiment. Et le coaching, en quoi ça peut aider? Et d'ailleurs, c'est important que, c'est une question importante parce que les gens souvent se disent, est-ce que je dois aller voir une psy? Est-ce que je dois aller voir un psychiatre? Est-ce que je dois aller voir une coach? Et j'aimerais bien démystifier ça un peu parce que ils sont tous complémentaires, différents. Un psychiatre, c'est vraiment pour traiter des pathologies, pour avoir des médicaments. Donc aussi, les personnes qui ont des dépressions doivent aller voir un psychiatre d'abord en priorité. Une psychologue, il y a différents types de thérapies, mais si je peux en parler de manière grosso modo, on va beaucoup travailler sur le passé, sur les traumas, etc. Le coaching, c'est très axé sur ici et maintenant. C'est sûr qu'on fait des liens, et c'est hyper important sur le pourquoi on ressent ça. C'est important de faire des liens, mais c'est beaucoup sur le comment on peut sortir.
Sur l'action.
C'est sur l'action.
C'est pas juste parler, raconter.
Non, c'est très concret. C'est vraiment axé solution. Je suis dans un point A de ma vie, j'ai telle problématique, comment je peux passer au point B, C, D, qu'est-ce que je peux faire au quotidien? Donc c'est vraiment axé très, très solution.
Est-ce que tu es spécialisée dans, est-ce que tu as une spécialité, c'est-à-dire dans le, dans...
Oui.
La confiance en soi, ce genre de choses,
ou alors, c'est ça où tu restes... Alors moi, c'est confiance en soi, gestion des émotions et authenticité. Et Fatine, en fait, moi, c'est mon histoire personnelle qui m'a amenée à développer un programme de coaching qui te permet de gagner en confiance, en estime, à mieux gérer tes émotions, à te reconnecter à qui tu es vraiment. Mmh. Et je pense que c'est des choses essentielles qu'on devrait apprendre à nos enfants à l'école primaire, apprendre à gérer nos émotions. C'est fou parce que l'être humain, ce dont il a le plus peur, c'est de ressentir de l'inconfort. Alors qu'il y a des outils qui te permettent d'aller de l'avant. Et moi, c'est vraiment un programme de coaching où j'ai mis tout ce qui a changé ma vie d'abord. Tous les outils, toutes les prises de conscience et qui a aidé à transformer la vie des personnes que j'accompagne depuis 3 ans maintenant. Donc c'était avant tout pour moi et je me suis dit, mais en fait, je vais en faire profiter un maximum de personnes.
Voilà. Je trouve que c'est primordial et c'est comme, moi j'adore donner cet exemple, c'est comme aller chez le médecin, c'est comme on a mal quelque part, j'ai mal au cœur, j'ai le cardiologue, j'ai mal au bras, quand on se sent pas bien dans sa peau, quand on a un souci ou qu'on sait pas comment démarrer quelque chose, on va voir un coach et c'est aussi bête et simple que ça.
Oui, mais les gens ont tendance à ne pas vouloir investir en eux dans ce genre de choses alors que c'est essentiel, le retour sur investissement, le bonheur qu'on gagne.
Mais encore une fois, les injonctions de la société, je pense que ça joue aussi là-dedans et on ne veut pas... parfois, ou alors même si on oublie la société parce qu'on va pas forcément parler autour de nous, mais juste il y a des personnes qui n'arrivent pas à assumer ou à concrétiser et dire clairement j'ai besoin d'aide et voir quelqu'un.
Non, c'est vrai que c'est un travail à faire, sensibiliser les gens. Mais je pense que les mentalités au Maroc changent beaucoup. Et vraiment, pour te dire, ma clientèle est de milieux complètement différents. Donc j'ai l'impression qu'il y a une sensibilité dans toutes les sphères marocaines qui est là et ça fait vraiment plaisir à voir. Il faut être fier d'aller voir un coach, une coach, un psy et que tout le monde en a besoin.
Je pense que même quand on pense aller bien, il faut.
C'est le travail d'une vie. On est là pour expérimenter des choses, pour grandir, nous élever, apprendre et on est là pour ça. Sinon.
Exactement. Écoute, je te remercie énormément. Est-ce que tu peux juste dire à nos auditeurs où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux, comment on peut te contacter?
Oui, bien sûr. Donc, je suis très active sur ma page Instagram. C'est Lina Bounsaïd. Le tiré du bas, c'est quoi?
Tiré du 8.
Coach.
Underscore.
Coach. C'est ça, Habiban. Lina Bounsaïd, tiré du 8. Coach. Voilà.
Parfait. De toute façon, je mettrai le lien du coup à tout le monde sur la bio et la description du podcast. Je te remercie infiniment
avec plaisir
pour ta présence et pour être venu discuter d'un sujet aussi important qu'être authentique et soi-même. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été à l'écoute et d'avoir été au rendez-vous. Je vous dis à la prochaine et à très bientôt.